Chapitre 4, cinquième partie, mardi 23 octobre. Il a gelé plus fort cette nuit, et le sol des cours est couvert de petits cristaux blancs quand nous commençons dans les galeries et les dépendances du palais nos explorations de chaque matin. Tout ce qui fut jadis logement de missionnaires lazaristes ou salle d'école est bondé de caisses. Il y a là des réserves de soie et des réserves de thé. Il y a aussi des amas de vieux bronzes, vases ou brûle-parfums, empilés jusqu'à hauteur d'homme. Mais c'est encore l'église qui demeure la mine la plus extraordinaire, la caverne d'Ali Baba la plus remplie. Outre les objets anciens apportés de la ville violette, l'impératrice y avait fait entasser tous les cadeaux reçus il y a 2 ans pour son jubilé. Et le défilé des mandarins, qui en cette occasion apportèrent des présents à la souveraine, avait, paraît-il, 1 lieue de longueur et dura toute une journée. Dans la nef, dans les bas-côtés, les monceaux de caisses et de boîtes s'élèvent jusqu'à mi-hauteur des colonnes. Malgré les bouleversements, malgré les pillages faits à la hâte par ceux qui nous ont précédés ici, chinois, japonais, soldats allemands ou russes, il reste encore des merveilles. Les plus énormes coffres, ceux d'en dessous, préservés par leur lourdeur même et par les amas de choses qui les recouvraient, n'ont même pas été ouverts. On s'est attaqué plutôt aux innombrables bibelots posés par-dessus et enfermés pour la plupart dans des guérites de verre ou des écrins de soie jaune, bouquets artificiels en agate, en jade, en corail, en lapis. Pagodes et paysages tout bleus, en plumes de martin pêcheur prodigieusement travaillées. Pagodes et paysages en ivoire, avec des milliers de petits bonshommes. Œuvres de patience chinoise ayant coûté des années de travail et aujourd'hui brisées, crevées à coups de baïonnette, les débris de leurs grandes boîtes de verre jonchant le sol et craquant sous les pas. Les robes impériales, en lourde soie, brochés de dragons d'or, traînent par terre, parmi les cassons de toute espèce. On marche dessus, on marche sur des ivoires ajourés, sur des vitres, des broderies, des perles. Il y a des bronzes millénaires pour les collections d'antiquités de l'impératrice. Il y a des paravents que l'on dirait sculptés et brodés par les génies et les fées. Il y a des potiches anciennes, des cloisonnées, des craquelées, des lacs, et certaines caisses en dessous, portant l'adresse d'empereurs défunts depuis 1 siècle, renferment encore des présents qui étaient venus pour eux des provinces éloignées et que personne n'avait jamais pris la peine de déballer. La sacristie, enfin, de l'étonnante cathédrale, contient dans des séries de cartons tous les somptueux costumes pour les acteurs du théâtre de l'impératrice, avec leurs coiffures à la mode des vieux temps chinois. Cette église, emplie de richesses païennes, a gardé là-haut ses orgues, muettes depuis quelque 30 ans. Et nous montons, mon camarade et moi, dans la tribune, pour faire à nouveau résonner sous la voûte des chants de Bach ou d'Endel, tandis qu'en bas, nos chasseurs d'Afrique, enfoncés jusqu'aux genoux dans les ivoires, dans les soies, dans les costumes de cour, continue de travailler au déblaiement. Vers 10 heures ce matin, par les sentiers du grand bois impérial qu'habitent en ces jours d'abomination les chiens, les pies et les corbeaux, je m'en vais, de l'autre côté de la ville violette, visiter le palais des ancêtres, gardé aujourd'hui par notre infanterie de marine et qui était le saint des saints, le panthéon des empereurs morts, le temple dont on n'approchait même pas. C'est dans une région particulièrement ombreuse. En avant de la porte d'entrée, les arcs de triomphe laqués de vert, de rouge et d'or, tourmentés et légers sur des pieds frêles, s'en mêlent aux ramures sombres. Les énormes cèdres, les énormes cyprès tordus de vieillesse, abritent et font verdir les monstres de marbre accroupis devant le seuil. Une fois franchie la première enceinte, on en trouve naturellement une seconde. Toujours à l'ombre froide des vieux arbres, les cours se succèdent, magnifiquement funèbre, pavé de larges dalles entre lesquelles pousse une herbe de cimetière. Chacun des cèdres, chacun des cyprès qui jettent là son obscurité, est entouré à la base d'une ceinture de marbre et semble sortir d'une corbeille sculptée. Tout est saupoudré de milliers de petites aiguilles résineuses qui éternellement tombent des branches. Des brûle-parfums géants, en bronze terni par les siècles, posent sur des socles avec des emblèmes de mort. Les choses ici portent un sceau jamais vu de vétusté et de mystère. Et c'est bien un lieu unique, hanté par des mânes d'empereurs chinois. Sur les côtés, des temples secondaires, dont les murailles de lacs et d'or ont pris avec le temps des nuances de vieux cuir de Cordoue, renferment les pièces démontées des énormes catafalques et les emblèmes, les objets sacrés pour l'accomplissement des rites funéraires. Là, tout est incompréhensible et d'aspect effroyable. On se sent profondément étranger à l'énigme des formes et des symboles. Enfin, dans la dernière cour, sur une terrasse de marbre blanc, où sont postées en faction des biches de bronze, le palais des ancêtres dresse sa façade aux ors ternis et sa haute toiture de faïence jaune. C'est une salle unique, immense, grandiose et sombre, tout en or fané, mourant, passé au rougeâtre de cuivre. Au fond s'alignent 9 portes mystérieuses, dont les doubles battants somptueux ont été scellés de cachets à la cire. Au milieu sont restées les tables sur lesquelles on posait pieusement les repas pour les mânes des ancêtres, et où le jour de la prise de la ville jaune, nos soldats qui avaient faim furent heureux de trouver toute servie une collation imprévue. Et à chaque extrémité de la salle sonore, des carillons et des instruments à cordes attendent l'heure, qui ne reviendra peut-être jamais plus, de faire de la musique aux ombres. Longue cithare horizontale, rendant des sons graves, et que supportent des monstres d'or aux yeux fermés. Carillons gigantesques, l'un de cloches, l'autre de plaques de marbre et de jade suspendues par des chaînes d'or, et tous deux surmontés de grandes bêtes fantastiques qui déploient leurs ailes d'or dans la pénombre éternelle vers les plafonds d'or. Il y a aussi des armoires de laque, grandes comme des maisons, contenant des collections de peintures anciennes roulées sur des bâtons d'ébène ou d'ivoire et enveloppées dans des soies impériales. Il en est de merveilleuses, révélations d'un art chinois que l'on ne soupçonne guère en Occident, d'un art au moins égal au nôtre, bien que profondément dissemblable. Portraits d'empereurs en chasse ou en rêverie solitaire dans des forêts, dans des sites sauvages qui donnent l'effroi et le nostalgique désir de la nature d'autrefois, du monde inviolé des rochers et des arbres. Portraits d'impératrices mortes, peints à l'aquarelle sur des soies bises et rappelant un peu la grâce candide des primitifs italiens. Portraits pâles, pâles, presque incolores, comme si c'était plutôt des reflets de personnes vaguement fixées et prêts à fuir. La perfection du modelé, obtenue avec rien, mais toute l'intensité concentrée dans les yeux que l'on sent ressemblants et qui vous font vivre, pour une étrange minute, face à face avec des princesses passées, endormies depuis des siècles sous les mausolées prodigieux. Et toutes ces peintures étaient des choses sacro-saintes que jamais les Européens n'avaient vues, dont ils ne se doutaient même pas. D'autres rouleaux, tout en longueur, qui déployés sur les dalles ont bien 6 ou 8 mètres, représentent des cortèges, des réceptions à la cour, des défilés d'ambassades, de cavaliers, d'armées, d'étendards. Milliers de petits bonshommes dont les vêtements, les broderies, les armes supporteraient qu'on les regardât à la loupe. L'histoire du costume et du cérémonial chinois à travers les âges tient tout entière dans ces précieuses miniatures. Nous y trouvons même la réception, par je ne sais quel empereur, d'une ambassade de Louis XIV. Petit personnage aux figures très françaises, habillé comme pour se pavaner à Versailles, avec la perruque à l'instar du roi Soleil. Dans le fond du temple, les 9 portes magnifiques aux battants scellés ferment les autels mortuaires de 9 empereurs. On veut bien briser pour moi les cachets de cire rouge et déchirer les bandelettes de toile à l'une de ces entrées si défendues. Et je pénètre dans un des sanctuaires très sacrés, celui du grand empereur Kuangsu, dont la gloire resplendissait au commencement du XVIIIe siècle. Un sergent m'accompagne par ordre dans cette profanation, tenant à la main une bougie allumée qui semble brûler ici à regret, dans l'air plus rare et le froid du sépulcre. Le temple était déjà bien sombre, mais à présent, c'est la nuit noire, et on dirait qu'on a jeté de la terre et de la cendre sur les choses. Toujours cette poussière qui s'accumule sans trêve sur Pékin, comme un indice de vétusté et de mort. Passant de la lumière du jour, si amortie qu'elle soit, à la lueur d'une petite bougie effarée dans les ténèbres, on y voit d'abord confusément, et il y a une hésitation de la première minute, surtout si le lieu est saisissant par lui-même. J'ai devant moi un escalier de quelques marches, montant à une sorte de tabernacle qui me paraît chargé d'objets d'un art presque inconnu. Et à droite et à gauche, fermés par des serrures compliquées, sont des bahuts austères, en laque noire, dont il m'est permis de visiter l'intérieur. Dans leurs compartiments, dans leurs doubles fonds à secret, ont été ensevelis par centaines les cachets impériaux de ce souverain, lourds cachets frappés pour toutes les circonstances de sa vie et tous les actes de son règne, en blocs d'onyx, de jade ou d'or. Reliques sans prix, auxquelles on ne devait plus toucher après les funérailles et qui dormaient là depuis 200 ans. Je monte ensuite au tabernacle, et le sergent promène sa petite bougie devant les merveilles qui sont là, sceptre de jade, vase aux formes d'une simplicité étrange et exquise, ou d'une complication déroutante, en jade sombre, en jade blême, en cloisonné sur or ou en or massif. Et derrière cet autel, dans un recul d'obscurité, une grande figure que je n'avais pas aperçue encore, me suit d'un regard oblique entre 2 rideaux de soie jaune impériale, dont tous les plis sont devenus presque noirs de poussière. Un pâle portrait de l'empereur défunt, un portrait en pied de grandeur naturelle, si effacé à la lueur de notre misérable bougie barbare, que l'on dirait l'image d'un fantôme reflété dans une glace ternie. Or, quel sacrilège sans nom aux yeux de ce mort, l'ouverture par nous des bahuts où reposent ses cachets. Et rien que notre seule présence dans ce lieu impénétrable entre tous, au milieu d'une impénétrable ville. Quand tout est soigneusement refermé, quand on a remis en place les scellés de cire rouge et rendu le pâle reflet du vieil empereur à son silence, à ses ténèbres habituelles, j'ai hâte de sortir du froid tombal qu'il fait ici, de respirer plus d'air, de retrouver sur la terrasse, à côté des bêtes de bronze, un peu du soleil d'automne filtré entre les branches des cèdres. Je vais aujourd'hui déjeuner à l'extrême nord du bois impérial, invité par des officiers français qui sont logés là, au temple des vers à soie. Et chez eux, c'est encore un admirable vieux sanctuaire, précédé de cours pompeuses, où des vases de bronze décorent des terrasses de marbre. Un monde de temples et de palais dans la verdure, cette ville jaune. Jusqu'au mois dernier, les voyageurs qui croyaient visiter la Chine et pour qui tout cela restait muré, interdit, vraiment ne pouvaient rien imaginer du Pékin merveilleux que la guerre vient de nous ouvrir. Quand vers 2 heures, je reprends le chemin de mon palais de la Rotonde, un brûlant soleil rayonne sur les cèdres noirs, sur les saules qui s'effeuillent. comme en été, on recherche l'ombre. Et près de ma porte, à l'entrée du pont de marbre, mes mornes voisins, les deux cadavres en robe bleue qui gisent parmi les lotus, baignent dans une ironique splendeur de lumière. Après que les soldats de garde ont refermé derrière moi l'espèce de poterne basse par où l'on accède à mes jardins suspendus, me voici de nouveau seul dans le silence, jusqu'à l'heure où les rayons de ce soleil, tombant plus obliques et plus rougis sur ma table à écrire, m'annonceront le triste soir. À peine suis-je installé au travail qu'un petit coup de tête amical, discrètement frappé contre ma jambe pour appeler mon attention, m'annonce la visite du chat. Je l'avais d'ailleurs prévu, cette visite, et je dois m'attendre à la recevoir à présent chaque jour. Une heure passe, dans un calme idéal, traversée tout au plus de deux ou trois cris de corbeaux. Et puis j'entends, au pied de mon rempart, un galop de cavalerie, très bruyant sur les dalles de pierre de la route. C'est le feld-maréchal de Waldersee, suivi d'une escorte de soldats portant des fanions au bout de leurs lances. Il rentre chez lui, dans le palais qu'il habite non loin d'ici et qui est la plus somptueuse de toutes les résidences de l'impératrice. Je suis des yeux sur le pont de marbre la chevauchée qui s'éloigne, tourne à gauche, se perd derrière les arbres. Et le silence aussitôt revient, absolu comme devant. De temps à autre, je vais me promener sur mes hautes terrasses d'allées, y découvrant chaque fois des choses nouvelles. Au pied de mes cèdres, il y a d'énormes tam-tams pour appeler les esprits. Il y a des plates-bandes de chrysanthèmes jaunes et d'œillets d'Inde jaunes, auxquels la gelée a laissé quelques fleurs. Il y a une sorte de dais, en faïence et en marbre, abritant un objet d'aspect au premier abord indéfinissable, l'un des plus gros blocs de jade qui soit au monde, taillé à l'imitation d'un flot de la mer, avec des monstres luttant au milieu de l'écume. Je vais aussi visiter les kiosques déserts qui sont encore meublés de trônes d'ébène, de divans et de coussins de soie jaune et qui ressemblent à des nids d'amour clandestins. Sans doute, en effet, la belle souveraine, vieillie et encore galante, y venait-elle s'isoler avec ses favoris dans les soies impériales et la pénombre complice. Aujourd'hui, en ce palais de rêve, ma seule compagne est la grande déesse d'albâtre en robe d'or qui sourit toujours à ses vases brisés et à ses fleurs fanées. Mais son temple, où n'entre pas le soleil, est éternellement glacial et devient obscur avant l'heure. Maintenant, du reste, c'est décidément le soir. Le froid commence de me prendre, même dans mon kiosque vitré. Le soleil qui sur notre France est à son apogée méridienne, ici tombe, tombe, triste boule rouge qui n'a plus ni chaleur ni rayon et qui va s'abîmer derrière le lac des lotus dans une buée d'hiver. En quelques minutes arrive le froid des nuits. J'ai la sensation comme d'une descente brusque dans un caveau plein de glace, en même temps que je retrouve la petite furtive angoisse d'être exilée très loin, au milieu d'étrangetés qui s'assombrissent. Et j'accueille en amis mes deux serviteurs qui viennent me chercher pour entrer au palais du Nord, m'apportant un manteau.